Qu'est-ce qu'il y a? Tu chies déjà dans ton froc?
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Connard!
Oui, c'est insupportable! C'est insupportable! Coupez-leur le micro! C'est insupportable! Monsieur Collard, Monsieur Collard!
Et bienvenue, vous êtes sur Révolution et Liberté, le podcast. Il s'agit du 5e épisode et je serai avec Laetitia pour m'accompagner.
Bonjour, nous serons ensemble pour parler des gilets jaunes comme nous l'avons fait dans le 2e épisode. Puis nous ferons le lien avec la crise sanitaire, notamment du mouvement contre la vaccination, tout comme le pass sanitaire.
Effectivement, la crise sanitaire se referme doucement. Le temps est venu clairement d'analyser les différentes rhétoriques utilisées durant cette crise sanitaire. Au moment où nous écrivons, les antivax sont devenus poutinolâtres et se relaient sur les réseaux sociaux, dont les insoumis.
Tu veux dire que les soutiens de Jean-Luc Mélenchon n'hésitent pas à soutenir une position poutiniste? Nous le verrons brièvement en fin d'épisode.
Eh oui, j'assume pleinement mes positions en ce qui concerne la prise de position actuelle. Les eugénistes de toute tendance auront bien fait de se mettre en avant au travers de thèses dangereuses au nom de l'immunité naturelle, et les personnes dans le déni sont allées jusqu'à souligner que le virus n'existait pas. Les faits sont têtus. D'autres ont prôné, qu'ils soient de droite comme de gauche, la théorie du Great Reset et de nombreuses théories intermédiaires farfelues.
Il convient de recommencer une analyse telle que tu l'as mise en avant durant tes différents travaux, tes différents articles sur différentes plateformes. Il me semble que tu as travaillé certaines questions, mais tu n'as pas le monopole ni même la vérité. Ainsi, il semble nécessaire de voir qu'il s'agit par là de voir comme une tentative d'analyse et de décryptage de ce qu'il se joue et de ce qu'il va se jouer.
Les samedis, des gilets jaunes ont laissé place à des anti-vax et anti-pass. Revenons un peu sur la base de ces derniers. Il semble nécessaire de parler longuement du mouvement des gilets jaunes afin de parler du mouvement contre le vaccin et contre le pass sanitaire comme vaccinal.
Ainsi, nous traiterons le mouvement des gilets jaunes afin de mieux comprendre ce mouvement contre la hausse des prix de l'essence. De telle sorte, est-ce que tu pourrais rappeler sommairement la manière dont tu décris le mouvement des gilets jaunes ?
Le mouvement poujadiste contre la baisse des taxes, la baisse des cotisations, la baisse des impôts était bien là. Pierre Poujade serait allé soutenir s'il avait été encore en vie avec son compagnon de combat Jean-Marie Le Pen s'il était en meilleure forme. Les ultralibéraux étaient de sortie. Cependant, ce n'est guère étonnant que de nombreux gilets jaunes vont voter pour un certain Éric Zemmour, tout comme Marine Le Pen, voire de Valérie Pécresse. C'était bien la peine que la gauche a essayé de récupérer le mouvement, mais finalement a témoigné d'un terrible échec.
Une des revendications a été l'augmentation du pouvoir d'achat. On se souvient du slogan de Nicolas Sarkozy pour la campagne de 2007, du « travailler plus pour gagner plus ». Il s'agissait de défiscaliser les heures supplémentaires. Lorsque François Hollande est arrivé au pouvoir, il a refiscalisé ces dernières. Emmanuel Macron est allé bien plus loin en désocialisant ces dernières. Autrement dit, le président sortant est allé plus loin que Nicolas Sarkozy et bien plus à droite. Or, les cotisations sociales ne sont pas anecdotiques sur le salaire, elles sont le salaire différé. Elles permettent de payer la sécurité sociale, c'est-à-dire les hôpitaux, le nombre de soignants, le salaire des soignants, etc. Elles permettent de financer les retraites. Elles permettent également de financer l'assurance chômage. L'autre modèle qui est mis en avant réside dans un modèle ultralibéral à l'américaine ou thatchérien comme au Royaume-Uni.
Tu as raison. Une des raisons s'explique par le fait que les gilets jaunes ne sont pas éduqués aux thèses progressistes. Il s'agissait d'une réaction contre les taxes, comme ce fut le cas des bonnets rouges, dont je ne vais pas revenir là-dessus. Est-ce une critique? Non, il s'agit d'un simple constat. Dans ce sens, la lutte des classes, comme fait établi, démontrant les antagonismes de classe, n'a jamais été mise sur les lieux d'occupation. Au contraire, il s'agissait de baisser le prix du carburant. Aujourd'hui, il se situe à près de 2 euros en raison du conflit ukrainien, dont je reviendrai plus tard dans une troisième partie du podcast. Je comprends pertinemment le dilemme. Travailler pour payer de l'essence et payer de l'essence pour travailler. Les entreprises comme Total se gavent sur le dos du contribuable en faisant des profits incroyables et versent des dividendes exorbitants à ses actionnaires. Or, le secteur énergétique comme l'électricité ou le secteur pétrolier sont des secteurs clés et fondamentaux pour les pays ne pouvant se passer des ressources fossiles. L'une des revendications fondamentales aurait été de nationaliser Total, par exemple. Pourquoi cette mesure nécessaire afin de baisser considérablement le prix de l'essence et du diesel comme du gasoil demeure absente?
Dans la lutte sociale, il existe deux mécanismes. L'expropriation au travers de la réquisition des moyens de production ou de socialisation. Le contrôle ouvrier demeure nécessaire à première vue. Tu parles de nationalisation, mais le fait de laisser un capitalisme de marché vers un capitalisme d'État ne permet pas réellement de sortir de l'aspect marchand tel qu'il est décrit dans le Capital de Karl Marx.
Dans ce sens, tu as raison. Les taxes représentent près de 60 à 70% du prix sur la pompe. Toutefois, lorsqu'on sait que Total a réalisé près de 15 milliards d'euros de dividendes et l'a versé à ses actionnaires, je crois que je peux dire sciemment que l'enrichissement des actionnaires va à l'encontre du consommateur. L'idée serait de reconvertir Total dans une association et non une entreprise sous contrôle ouvrier. Ainsi, l'objectif serait de ne pas réaliser de profit. Certaines personnes me diront que cela reste un frein à la dynamique de la motivation des salariés. Or, il existe de nombreuses associations ou entreprises qui fonctionnent très bien, où la dynamique reste présente, comme dans les entreprises. En ce qui concerne Total, cela permettra également aux travailleurs de récupérer la plus-value qu'ils réalisent, et cela ne peut qu'aboutir à une baisse concrète sur le prix de l'essence. Bien sûr que cela se retrouvera confronté à de nombreuses embûches, notamment dans le fait que nous vivons dans une économie interconnectée et que cela ne peut que déboucher sur la lecture passionnante de Rosa Luxembourg dans son introduction à l'économie politique.
En d'autres termes, il s'agit d'une grogne contre la hausse des prix, mais cela ne met en aucun cas des solutions concrètes clairement progressistes comme la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, il se construit au travers d'une dimension que cet impôt indirect universel reste le plus injuste. Il faut le rappeler également que les néolibéraux soutiennent régulièrement la rhétorique de la TVA sociale afin de baisser les cotisations sociales, comme nous venons d'en parler ci-dessus, pour faire baisser les prix, afin d'améliorer la compétitivité. Ainsi, nous sommes clairement dans un mouvement des classes moyennes. Comment tu peux nous expliquer cela?
Les révolutions petites bourgeoises ne mènent en aucune manière une réelle révolution et à aucun moment une forme de progrès. La réaction se situe très clairement dans la mesure où, comme je le disais plus tôt, il s'agissait d'améliorer le néolibéralisme et non de rompre radicalement avec lui. Tel était le discours de la place de l'Opéra du 15 décembre 2018 de Priscilla Ludowski que nous avons analysé dans les derniers épisodes. Oui, il fallait l'écouter. Il s'agissait du programme d'un certain Emmanuel Macron. Je ne me suis pas fait duper. Pourtant, les gilets jaunes disent « on est là, on est là ». Pourtant, il semble nécessaire d'admettre une chose, ils sont là, car ils soutiennent le programme de ce néolibéralisme-là. Le coût de la vie est réel, je n'en doute pas. Les salaires ne suivent pas l'inflation, tout comme la croissance. Dans ce sens, il existe une peur du déclassement. Le capitalisme a instauré cette crainte chez les classes moyennes afin de revenir au prolétariat. C'est d'ailleurs un élément qui a été décrit par Karl Marx en 1847 dans son manifeste du Parti communiste. Voilà une des problématiques qui se posent. Les classes moyennes ne savent plus sur quel pied danser. Or, les différents quinquennats se succèdent, les majorités varient, les gouvernements changent, mais la réaction reste la même. La petite bourgeoisie n'a que faire des programmes sociaux. Elle aspire sciemment à une vision radicale d'un programme bourgeois orienté sur la hausse du pouvoir d'achat, ce qui implique un démantèlement de l'État-providence. Cela ne surprendra personne.
Il faut souligner dans le même temps que l'État-providence est issu des différentes luttes sociales. Ce sont des conquêtes liées à un acharnement à la classe dominante. Le néolibéralisme reste un rouleau compresseur. La volonté s'inscrit dans la maximisation des profits. Pour cela, le patronat, quelle que soit sa taille, demande toujours plus. Quel est le rapport avec le patronat des Gilets jaunes ?
Alors, ils sont soutenus par les petits patrons. Il s'avérait que toutes les mesures prises par Emmanuel Macron ont permis de faire taire une partie de la contestation jaune. Je le vois. Les Gilets jaunes sont et resteront un mouvement néolibéral et profondément capitaliste. Certaines personnes me disent qu'il y avait des black blocs sur les Champs-Élysées. Certes. Mais une stratégie autonomiste ne permet guère de sous-entendre sciemment une vision qui aurait pu aboutir à une vision clairement à une rupture franche avec le mode de production. La question majeure de l'accumulation du capital a été ouvertement mise de côté. On pourra clairement souligner qu'au cours de la crise sanitaire, la classe dominante s'est enrichie, comme jamais auparavant, alors que les fils vers les aides alimentaires ont grandi proportionnellement. Répartir la richesse, ce n'est pas demander une hausse des aides sociales, même si elles sont nécessaires pour assurer la paix sociale, mais bien de reprendre la part de la plus-value qui correspond à la richesse produite par le travailleur qui est extirpée vers l'actionnaire. Voilà le vrai problème. Toutefois, je ne nie pas la grogne actuelle contre la hausse des prix liés à l'inflation, qu'elle soit par la demande ou par l'offre. On pourrait clairement dérouler une vision pragmatique visant à créer un autre modèle de l'État-providence. Au lieu de cela, on assiste depuis des dizaines d'années à son exact contraire. L'austérité vise à baisser les dépenses publiques, la pression fiscale, etc. Le ras-bol fiscal, comme le souligne Jean Gadret dans l'article « Impôts, fabrication du ras-le-bol et réalité de l'injustice » du Monde diplomatique de décembre 2013, aboutit à l'idée qu'il s'agit d'une construction artificielle.
On voit aussi qu'il y a une forme de méconnaissance de l'économie au niveau macroéconomique de la part de ces personnes. Je prends par exemple l'exemple de l'inflation. On voit beaucoup de personnes pester, hurler, critiquer. Mais les mesures contre l'inflation sont clairement ultralibérales, comme la compression salariale au niveau des salaires. Bref, nous sommes dans les joies du macronisme par ailleurs. Qu'en penses-tu réellement de la montée de l'inflation ? Est-elle bonne ? Est-elle mauvaise ?
L'inflation a toujours existé. Elle se résume par l'augmentation de la quantité de la circulation de la masse monétaire selon la théorie quantitative de la monnaie théorisée par Morgan Friedman, qui n'était vraiment pas de gauche et clairement pas contre le renversement du capitalisme. Or, l'inflation est considérée comme un problème majeur par les économistes orthodoxes. Dans ce sens, il convient de souligner que les mécanismes pour stabiliser la monnaie s'inscrivent dans différents outils comme le taux directeur afin de stimuler les emprunts, par exemple. Pourtant, l'inflation est clairement liée au taux de chômage. Plus il est élevé, plus le taux de chômage est faible. Il s'agissait de la courbe de Phillips. Dans le même temps, la croissance liée à l'inflation devient évidente. Dans une économie où l'offre et la demande sont en jeu, lorsque la croissance augmente, alors nécessairement le revenu augmente. Mais quand l'inflation est faible, voire stagne, comme ce fut le cas au Japon au travers de la stagflation, il s'agit de plusieurs décennies perdues. Ainsi, je crois au pouvoir de l'inflation lorsqu'elle est maîtrisée, c'est-à-dire jusqu'à 5 à 10% par an, et non dans un contexte d'hyperinflation, comme ce fut le cas durant la République de Weimar, ou encore récemment dans le Venezuela de Nicolas Maduro.
Ces personnes appartiennent s'inscrivent comme des sous-prolétaires. Ils n'ont plus aucun moyen de se mobiliser, hormis le samedi, afin de ne perdre de l'argent, et cela participe à une vision clairement anti-syndicale, comme ce que rêve par ailleurs le patronat. Qu'en penses-tu ?
Le choix du samedi, par ces personnes qui voulaient renverser Emmanuel Macron, s'inscrivait à remettre en cause le syndicalisme jugé trop proche du pouvoir. Autrement dit, il s'agit d'une vision qui sous-entend que la rhétorique du tous pourri propre à l'extrême droite se mettait en évidence. En effet, les syndicats ne représentent plus les travailleurs qui ne veulent pas être représentés non plus. Alors les travailleurs sont soumis aux logiques du marché et de ses diktats. Ils le veulent. Le syndicalisme en France reste une chance. Mais ils ne veulent pas défendre les intérêts des travailleurs. La nostalgie d'une autre époque se transforme progressivement dans une forme de néo-corporatisme tel que voulu par les macronistes et les autres adeptes des idées néolibérales. Dans un article de Michel Ruffa, intitulé « À quoi sert le néo-corporatisme ?» dans la revue d'histoire de janvier à mars 1987, il affirmait que leur hypothèse initiale était celle d'une intégration progressive des groupes dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques par l'institutionnalisation de la négociation et du compromis. Ce modèle s'inscrivait, non qu'on se le dise, dans une version initialement ancrée vers la social-démocratie moderne. La montée en puissance du néolibéralisme a transformé le vestige social-démocrate vers un social-libéralisme pour les gouvernements qui se réclamaient du socialisme, voire vers l'école autrichienne pour ceux qui se réclamaient du néolibéralisme radical. Or, les syndicats sont vus comme un frein par les différents économistes de la ligne la plus orthodoxe. Augmentation des salaires, rigidité du marché du travail, etc. Ainsi, les alternatives visant à démanteler progressivement le syndicalisme s'inscrivent non pas à faire progresser le droit des travailleurs, mais bien à construire un rapport de force où les travailleurs ont un intérêt commun avec l'entreprise, les actionnaires et le patron. Il s'agit de l'explication rationnelle du compromis et de la négociation qui explique d'ailleurs le néo-corporatisme. Certains auteurs de différentes revues souligneront que le néo-corporatisme est intimement lié au keynésianisme. Or, nous considérons la comparaison entre le modèle actuel et celui des différentes corporations dans l'histoire, nous y voyons des points similaires. Imagine-t-on un seul instant un monde sans syndicats ? Apparemment, de nombreuses personnes voient dans cette dynamique un monde où l'individualisme méthodologique apparaît comme le seul vainqueur. Dans ce sens, il s'agit d'un mouvement qui ne voulait pas faire grève, afin de ne pas toucher les maigres salaires. À aucun moment donné, la revendication d'augmenter les salaires ne fut mise sur la table. En effet, le lumpenprolétariat pense que le salaire est un coût pour son patron. Plus le salaire est élevé, plus le patron trinque. Voilà l'idée. C'est le monde merveilleux du capitalisme. La question du salaire équitable s'inscrivant, l'équité souligne d'une certaine manière une absence de revendication pour en finir avec le salariat. Clairement, Karl Marx aura franchement souri depuis sa tombe au cimetière de Highgate. En effet, la révolution des Gilets jaunes, comme certains le soulignent, n'aura été dans les faits qu'un agglomérat réactionnaire. Puis ne parlons pas des leaders, ils n'en valent pas la peine. Dans les entreprises, ces gilets jaunes sont les commis du patronat. Ce sont des jaunes, comme certains syndicats, comme l'UNSA, la CFDT et bien d'autres. Le choix de la couleur jaune était fait en fonction d'une vision néolibérale. Cela ne plaira pas à tous, mais il faut être honnête et rigoureux.
Les gilets jaunes se réveillent d'un long silence. Tu l'as dit ci-dessus qu'il s'agissait d'un mouvement réactionnaire, c'est-à-dire d'une réaction en lien avec quelque chose, mais pas un mouvement de fond.
Effectivement, le mouvement ne s'est pas réveillé contre la codification de l'état d'urgence sécuritaire, contre la loi El Khomri, contre les ordonnances pénicaux, etc. Rien de tout cela. Non, ils pensaient à leurs petits avantages, et rien ne leur touchait tant que c'était les autres. Pendant que nous trinquions dans les manifestations, je pense d'ailleurs à cette grenade qui m'a blessé pendant une manifestation à République, où était-il ? Finalement, il s'agissait d'un mouvement de droite, le plus sanglant de ces dernières années. Il y a eu une répression importante, et près de 13 morts, des milliers de blessés et des milliers d'arrêtés. Il convient dans ce sens de voir qu'ils ont finalement obtenu gain de cause. Toutefois, le prix de la hausse du carburant remonte progressivement en lien avec les différentes sanctions contre la Russie et vice-versa. Va-t-on assister de nouveau à des défilés ? Va-t-on voir les Poujadistes reprendre les ronds-points ? Nul ne le sait.
Puis, nous avons vu de nombreux médias d'extrême droite, dont certains clairement réalisant la propagande pour Marine Le Pen et Éric Zemmour comme RT France ou Spoutnik. Actuellement, ces derniers ont été dissous en lien avec la guerre en Ukraine, puisqu'ils étaient des relais de désinformation, entre autres du Clairement, tout comme du poutinisme. Qu'est-ce que tu en penses que certains de ces médias citoyens pour la plupart ?
Le fait que chaque manifestation puisse réaliser des lives et des directs s'approche, s'inscrit dans une approche où chacun peut être vu comme un diffuseur d'informations qui est publié sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Or, ces informations sont largement diffusées sur les réseaux sociaux et sont vues comme des vérités. Et je crois qu'il s'agit d'un danger, surtout quand les réseaux russes, au travers de l'extrême droite, joue une pression fondamentale afin d'orienter le débat politique. Étonnant, non ?
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas « Nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution ». Et toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable. On fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'il n'avait pas faite, et qu'il n'aurait pas faite s'il n'avait pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'il la voulait. Je vois quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37.
Alors il se passe, ça n'est plus rien.